Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
Bonjour. Bonjour.
Cette semaine, on va se pencher sur le 15 de France féminin, parce que les Bleus, eux, avec 4 victoires bonifiées au compteur, dans le tournoi des Nations, vont disputer leur finale samedi à Bayonne contre l'Angleterre pour décrocher le Grand Chelem. Ça nous rappelle quelque chose de bien joli. Et en cette période de joliesse toute relative, hein, on en reprendrait avec plaisir du Grand Chelem. On va donc décortiquer cette équipe de France, parler rivalité avec l'Angleterre, un peu Coupe du Monde aussi, et s'interroger sur l'évolution de son exposition même. On va bleu-euter avec Adrien Corré. Salut Adrien.
Salut Christelle.
Yann Sterny, salut Yann.
Salut Christelle.
Et Clément Dossin, salut Clem.
Salut Cricri.
Vous connaissez le programme, on peut y aller, flexion liée jeu. Après leur tournée d'automne feu d'artifice, hein, où elles ont battu deux fois les Black Ferns, les Néo-Zélandaises, l'épouvantail venu du Sud, et corrigé l'Afrique du Sud, 48 à 3, les Bleus poursuivent leur marche sur le monde ovale, avec 4 victoires bonifiées dans le tournoi destination. Ça a donné 39-6 contre l'Italie, 45 contre l'Irlande, 28-8 en Écosse, et ce week-end, 33-5 à l'Arms Park de Cardiff. Yann, cette équipe de France, elle plaisante pas trop, en fait. Hein. Elle marque, elle prend pas d'essais.
Elle rigole pas. Le problème, c'est que les Anglaises rigolent encore moins.
sur ce qu'elles ont montré en attendant l'Angleterre
D'un point de vue comptable, c'est très positif. Il n'y a que des victoires bonifiées. Donc l'idée était d'arriver sur cette dernière journée avec le même nombre de points que les Anglaises et de s'offrir une finale. C'est réalisé. L'autre point positif, c'est qu'il y a eu, sur le premier bloc du tournoi, c'est-à-dire sur les 3 premiers matchs, beaucoup de rotations. Donc on a vu beaucoup de jeunes jouer, beaucoup de nouvelles expérimentations, et qu'on a réussi à leur donner du temps de jeu tout en prenant 5 points à chaque fois. Après, sur le contenu final, il y a eu quand même pas mal de déchets, pas mal d'inconstances, et tout n'a pas été rassurant.
Dans les points forts, c'est quoi? C'est leur facilité à marquer, justement?
Leur grosse force, c'est d'abord la base, la conquête, le jeu d'avant, avec un pack qui tourne un peu moins que le reste de l'équipe, qui est très performant, solide en touche, solide en mêlée, contre des équipes un peu plus faibles comme l'Italie, l'Irlande, les Galloises ou l'Écosse, ça offrait un vrai avantage. Pour le reste, il y a eu quand même beaucoup de déchets dans le jeu de ligne. C'est vraiment le jeu d'avant qui était la grosse force de cette équipe et qui le sera aussi contre les Anglaises.
En fait, Yann y parle d'inconstance. Ce qui est un peu frustrant quand on regarde cette équipe de France féminine, c'est qu'on la voit comme vendredi dernier contre l'Écosse, être capable de marquer 4 essais en une mi-temps, de surclasser vraiment son adversaire pendant des périodes du match. Et après, je ne vais pas dire de disparaître, mais de tomber dans l'à-peu-près, de se mettre un petit peu au niveau de l'équipe qu'elle rencontre. Exactement ce que les Anglaises, eux, ne font pas. Quoi. Les Anglaises, si elles peuvent en mettre 50, elles en mettent 50. Si elles peuvent en mettre 70, elles en mettent 70. Elles ont vraiment mis des roustes énormes aux autres équipes. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... À l'instant T, bon, on en reparlera après, mais on se dit qu'on est quand même que l'équipe de France féminine est loin de l'Angleterre. En gros, c'est du simple au double, quoi. Elles ont marqué deux fois plus de points que l'équipe de France, les Anglaises. Mais bon, on verra ce que ça donne samedi, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, un petit goût d'inachevé quand on voit les matchs de l'équipe de France.
Yann soulignait la qualité de la conquête des Bleus. C'est vrai que ça a été le gros point fort de l'équipe depuis le début du tournoi. Et il y a eu peut-être un autre point fort, ça a été la défense. Parce que depuis le début de la compétition, on voit que les Françaises encaissent très très peu de points, sont globalement assez disciplinées dans leur camp, n'ont encaissé que 3 essais depuis le début de la compétition.
Mais les Anglaises 2.
Mais exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, L'équipe de France fait les choses plutôt bien, mais l'Angleterre deux fois mieux. Et c'est pour ça qu'en fait, cette défense notamment qui réussit pour l'instant sera vraiment véritablement testée ce week-end à Bayonne contre l'Angleterre.
Après, quand même, ce que je dis là, c'est vraiment pas pour dévaloriser les performances des Françaises, mais on voit qu'il voilà, y a un tournoi à deux vitesses. Il y a la France, l'Angleterre et le reste du monde. Et que du coup, jusqu'à présent... Voilà, on essaye de le faire là, de tirer des enseignements, mais c'est difficile parce que l'adversité était quand même limitée, quoi. Parfois très faible, parfois juste limitée. Et autant l'Irlande, il y a encore 4, 5 ans, 6 ans, était un adversaire intéressant, et c'est plus le cas aujourd'hui. Et, ou alors c'est parce que la France et l'Angleterre ont tellement progressé, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a un trop grand fossé entre les deux nations principales et les autres que c'est compliqué de se situer, quoi.
D'où le fait qu'on ait autant d'expérimentation.
Oui,
on savait qu'on avait plusieurs matchs pour vraiment se tester avant d'affronter l'Angleterre. Et on a testé vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. Je crois qu'il y a 27 joueuses différentes qui ont été titularisées juste sur les trois premiers matchs. Mm. Donc ça dit quand même quelque chose de la rotation.
Ça, c'est hyper positif pour le coup, effectivement. Mm.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueuses, justement, aussi. On a vu depuis une dizaine d'années une explosion un peu du nombre de licenciés. Du coup, ça permet à des jeunes d'arriver, des bonnes joueuses.
Tout à fait.
Il y a plein de jeunes, d'ailleurs.
Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent.
Tu disais, d'ailleurs, c'était quoi? Sur le premier match, il y avait 20 sélections en moyenne, non?
Il y avait 20 sélections en moyenne sur les trois premiers matchs. Mmh. Il y en avait 30 contre les Galloises, et on devrait tourner aussi à plus de 30 contre l'Angleterre. Donc c'était vraiment des équipes jeunes. Depuis novembre dernier, et les deux matchs contre les Black Ferns, il y a vraiment une nouvelle vague qui est arrivée en équipe de France, qui a fréquenté cette équipe de France parce que c'est beaucoup de joueuses qui étaient au Pôle France et qui s'entraînaient avec les Bleus. Et progressivement, elles ont été intégrées. Et là, on a passé une vitesse supérieure. Et ce qu'elles disent toutes, c'est que ces jeunes joueuses, elles arrivent avec beaucoup plus de maturité que les anciennes générations parce qu'elles ont commencé le rugby beaucoup plus tôt et qu'elles ont suivi une formation beaucoup plus cadrée.
En fait, ce que je trouve intéressant et remarquable dans la gestion de ce début de tournoi, c'est la poursuite de deux objectifs, en fait. À la fois remporter le tournoi, donc ne pas galvauder ces matchs-là, et comme le disait Yann, faire le carton plein au niveau des points pour espérer arriver sur une finale contre l'Angleterre, ce qui sera le cas samedi, et en même temps avoir toujours dans un coin de la tête qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive à l'automne prochain en Nouvelle-Zélande, et donc faire une revue d'effectifs très large. C'est une revue d'effectifs qui peut-être aurait pu avoir lieu il y a deux ans ou l'année dernière. Après, on sait que voilà, les circonstances du Covid notamment ont beaucoup perturbé le calendrier du rugby féminin, et donc le staff est contraint de le faire là. Ils auraient pu décider de ne pas le faire, hein, peut-être resserrer dès le début du tournoi leur groupe et viser des 60-0 comme les Anglaises contre ces équipes-là. Mais bon, à quoi bon au final? Et là, donc, ils le font avec l'idée de créer une émulation en interne, de faire jouer la concurrence au maximum en vue de la Coupe du Monde. Et pour le coup... À l'instant T, cet objectif-là, ce double objectif-là est parfaitement atteint, quoi.
Et cette émulation, pour l'instant, elle fonctionne d'autant plus qu'en fait, les jeunes joueuses qui ont leur chance assument vraiment leurs responsabilités et même prennent la place de certaines leaders. Par exemple, il y a le poste de deuxième ligne où il y a Madou Soufal qui s'est vraiment imposé, qui a peut-être mis un peu sur le banc des joueuses comme Safia Ndiaye ou Lani Corson, qui étaient des vrais meneurs dans le vestiaire. En demi-mêlée aussi, alors Sensu, on en parle de plus en plus, qui a plus ou moins fait oublier Pauline Bourdon, même si elle est toujours dans le paysage. Enfin, il y a toutes ces joueuses-là qui assument, et ça oblige même les anciennes, comme Jessie Trémoulière par exemple, à travailler d'autant plus pour rester dans l'équipe.
Ou à changer de poste.
Ou à changer de poste, avec réussite d'ailleurs. Ouais.
Oui, parce qu'on rappelle que Jessie Trémoulière, qui était à l'arrière, joue à l'ouverture.
Depuis deux matchs, c'est ça?
Depuis deux matchs, oui. Avec son joli pied.
Exactement.
Qu'elle tient du foot, selon elle.
Que d'infos.
Ah. Bah, Christelle, spécialiste de Jessie Trémoulière, quoi.
Pour les curieux, on avait fait un grand reportage dans son exploitation, puisque en plus, elle est agricultrice, et on avait fait un grand papier chez elle, dans le MAG, quand elle avait été élue joueuse du monde,
de la décennie. Joueuse de l'année, puis joueuse de la décennie.
Ouais, c'était en 2018, meilleure joueuse du monde. Justement, les joueuses là qui sont sorties un peu du lot, pour utiliser une expression un peu récente.
Depuis le début du tournoi, il y a une joueuse qui est systématiquement titulaire, même au milieu de cette rotation constante, c'est Gaëlle Hermet, la capitaine, qui est troisième ligne. qui a un travail plutôt de l'ombre, mais qui le fait très très bien, qui est à la fois la meneuse et une énorme plaqueuse, qui finit souvent à 15 plaquages réussis par match, et qui est une joueuse de base. Je dirais aussi qu'il y a Laure Sensus, même si depuis 2-3 ans, elle était vraiment en concurrence avec Pauline Bourdon pour le poste de numéro 9. Ouais. Là, elle est vraiment très impressionnante. L'année dernière, elle a été nommée parmi les meilleures joueuses du monde. Elle n'a pas eu le titre, mais elle était nommée. Et sur ce tournoi, c'est la meilleure marqueuse du tournoi.
Trois doublés.
Mmh. Et elle crée des différences assez énormes physiquement.
C'est l'Antoine Dupont.
Oh non, 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 oh non, non.
Ah bah
non.
Quoi ?
On arrête de comparer les femmes avec les hommes tout le temps, comme si c'était le plus beau compliment du monde.
C'est pas la question, c'est non. Pour situer un peu ce qu'elle représente au niveau du jeu de l'équipe de France. Voilà, c'est tout, c'est pas... Bon, alors Antoine Dupont et la Laure Sensus du 15 de France, c'est sûr. Enfin, excusez-moi, je le tourne comme ça.
C'est pareil, c'est aussi vilain. oui, Laure
Sensus.
Non, mais
il y a... Bon, enfin, c'est le parallèle, il est évidemment voilà, c'est cliché, mais elle joue dans le même club et elle présente quelques caractéristiques dans le jeu qui ressemblent à celles d'Antoine Dupont.
Et
voilà,
physique,
elle est hyper dynamique sur les premiers appuis, elle est capable de créer des brèches au ras des regroupements, elle marque un bel essai encore, enfin, parmi les deux essais qu'elle marque comme ça, un essai où elle s'échappe au ras. Donc voilà, c'est là que je voulais que j'en vienne.
Hein. Et c'est là que t'en as bienvenue.
Voilà.
Laure Sensus, d'autres joueuses qui vous ont un peu tapé dans l'œil
ou... On pensait à Caroline Drouin, Adrien va peut-être en parler.
Oui, bah, Caroline Drouin, elle joue actuellement à Rennes et elle joue au poste de demi-ouverture. Et en fait, c'était un poste qui était assez pas bancal, mais où il n'y avait pas vraiment de joueuses qui s'imposaient ces dernières saisons. Et depuis le début de la saison, là, elle a vraiment pris le poste. Alors actuellement, elle est blessée au genou. Elle va peut-être revenir, si je ne me trompe pas...
A priori,
à Bayonne. Mais en tout cas, elle a clairement pris le lead sur ce poste-là, grâce à sa capacité à orchestrer le jeu de l'équipe de France et aussi la qualité de son jeu au pied de déplacement, qui est un peu le parent pauvre de l'équipe de France de rugby féminin et plus globalement du rugby féminin.
Yann avait fait un très bon papier là-dessus, d'ailleurs, en début d'année, sur les progrès réalisés par le jeu au pied de l'équipe de France. Et c'est vrai que Drouin en est... une des artisans.
Elle est blessée pour...
Au genou, mais elle devrait revenir.
Elle devrait revenir, là. Du coup, ça va rebouger l'ouverture, l'arrière.
Si elle est prête, ce sera elle l'ouvreuse, et Jessie Trémoulière repartirait sur le banc.
Mais on peut se poser la question, parce que Jessie Trémoulière, depuis deux matchs, est vraiment très efficace à ce poste-là, et puis elle marque des points, elle marque des essais, elle a un excellent jeu au pied pour ce qui est des tirs au but, donc la question pourrait se poser.
Vous en avez déjà un petit peu parlé, messieurs, de l'Angleterre, là, pour décrocher le grand chelem. La dernière marche à gravir samedi, donc à Bayonne, ce sera contre l'Angleterre, que la France a plus battue depuis 2018. Hein, 9 matchs d'affilée sans victoire. C'est les meilleurs du monde, hein, les Anglaises.
C'est clairement les meilleurs du monde. D'autant plus qu'elles ont aussi joué les Black Ferns à l'automne dernier et qu'elles leur ont mis des roustes encore plus impressionnantes que celles qu'on a mises.
Ils sont pas très bien, les Black Ferns. Hein.
Ils ne sont pas très bien, mais les Anglaises aussi sont très très bien. Mmh. Donc non, clairement, les Anglaises sont un ton au-dessus. Là, tu évoquais un peu les chiffres de ce tournoi des Anglaises. J'ai regardé tout à l'heure. Elles sont à 64 points marqués en moyenne et 2 points encaissés en moyenne sur ce tournoi.
Ouais.
Donc ça dit un peu quelque chose. Elles ont globalement un peu plus d'expérience que les Françaises. Je n'ai pas calculé le nombre de sélections moyen, mais c'est plus élevé. Elles ont une expérience collective qui est plus importante. Elles sont mieux rodées.
Elles ont fait moins de rotations.
Elles ont fait moins de rotations aussi. Et elles ont quand même une profondeur de banc. Donc elles ont tout du bel épouvantail. Quoi.
Puis elles ont clairement l'ascendant sur l'équipe de France, parce que c'est vrai que c'est une série qui date entre guillemets que de 2018. Mais elles les ont beaucoup jouées, les Françaises, contre les Anglaises, puisqu'il fait 9 matchs. Des matchs pour la plupart serrés et qui ont toujours basculé du côté de l'Angleterre. Je me souviens particulièrement d'un match qui avait eu lieu à Lille et qui ne s'était pas terminé à cause de projecteurs qui s'étaient éteints un quart d'heure avant la fin. Et l'Angleterre avait du coup gagné ce match, mais que de 2 points. Enfin, c'est toujours des matchs un peu compliqués.
Ouais, puis il y a quand même eu plusieurs fois des scénarios un peu cruels, quoi, avec effectivement des matchs serrés et perdus sur la fin.
Il y a eu avec 7 heures où on menait, on a le ballon, il reste 30 secondes à jouer, on envoie un jeu au pied défaillant. Il y a essai derrière. Il y avait eu à Twickenham un match où on mène genre de 13 points à un quart d'heure de la fin et finalement on est battu. Enfin, les Français se sont battus. Ça fait plusieurs fois où on n'est pas assez proche sans l'emporter. Donc ça donne aussi un petit peu d'espoir en disant avec un peu plus de maîtrise, ça peut passer.
On explique comment un peu cette différence. On sait que les Anglais sont pros depuis plus longtemps que nous, hein, déjà. Alors, j'ai pas vérifié ce qui est mal, mais j'avais fait un papier il y a très longtemps. Je pense qu'Adrien était même pas né. Je crois que c'était en 2002 et les Françaises venaient d'avoir le statut de...
Adrien venait d'apprendre à marcher.
Et les Françaises venaient d'obtenir le statut de sportif de haut niveau seulement en rugby, donc
sportif
en 2001.
Niveau, ouais. Et pour ce qui est du professionnalisme, je crois que ça c'est très récent pour les deux nations, sauf que les Anglaises avaient eu des évolutions un peu plus précoces.
Il me semble qu'elles passaient semi-pro pour les Coupes du Monde déjà.
Exactement,
à l'époque,
pour la Coupe du Monde 2017, elles étaient passées pro, les Anglaises. Et après, elles sont passées, toute l'équipe est passée 100% pro, je crois, en 2019, comme les Françaises. Sauf que les Françaises sont, dans un premier temps, passées à 50% professionnelles, puis aujourd'hui à 75%. Donc il y a quand même une différence qui est notable et qui montre pourquoi aussi les Anglaises ont ce temps d'avance.
On y viendra aussi quand on parlera de l'exposition, mais il y a la difficulté de... Je pense qu'il est important aujourd'hui que les Françaises gardent une pluriactivité. Parce que voilà, on n'a pas un.
Ils n'ont pas le choix.
Déjà, ils n'ont pas le choix. Et puis, il n'y a pas un championnat voilà, aussi puissant que. D'abord que celui des Anglaises. Mmh. Et puis, évidemment, que celui que le top 14 côté masculin. Donc, il n'y a pas des clubs qui sont en mesure de rétribuer financièrement les joueuses voilà, suffisamment pour qu'elles puissent en vivre parfaitement. Quoi. Donc. Pour avoir suivi beaucoup l'équipe de France à 7 féminines, je sais que c'était, pour le coup, c'était presque même, je ne vais pas dire que c'était un choix, mais il y avait aussi une volonté vraiment que les joueuses gardent un pied dans la vie active à côté pour à la fois pour prévenir, bah voilà, faciliter la reconversion en cas de blessure prématurée dans la carrière, etc. etc. quoi. Donc, on sent que le modèle économique du rugby féminin est encore trop. Enfin. Il n'est pas achevé pour permettre une professionnalisation à 100%. Quoi.
Oui, après, je sais que c'est un cas particulier quand même, Jessie Trémoulière, j'y reviens, mais la journée que j'avais partagée avec elle, c'était assez hallucinant. Le lever pour la traite du matin, faire à bouffer à midi, partir, en plus c'était au moment... Il devait rester un peu des confinements, des bulles, bah, des bulles à l'époque anti-Covid. Donc, elle s'entraînait toute seule l'après-midi. Elle prenait son sac de ballon sur le dos pour aller trouver un terrain à Brioude où elle recevait son programme. Et puis après, elle repartait pour la traite du soir. Et il y avait l'entraînement à Romagna où elle a près d'une heure de route pour aller. Ça fait de la bonne journée, quoi.
C'est... Quand tu te couches, tu sais pourquoi.
Oui.
Puis il te reste 3 heures avant de te lever.
Voilà.
Et elle, d'ailleurs, sur ses, on parle des doubles contrats, je ne sais pas si on en parlait là ou tout à l'heure, mais elle disait, elle qui avait un double contrat à 7 et à 15, elle disait que ça commençait à la forcer quand même cette double casquette. Quoi.
Bah Yann, tu le disais, c'est quelque chose qui... Il n'y a plus beaucoup de joueuses qui sont concernées par ça. Quoi. Déjà, de fait, y a toutes les deux équipes ont un objectif majeur cette année, c'est une Coupe du Monde, et elles ont lieu quasiment en même temps. La Coupe du Monde de rugby à 7, c'est en septembre.
Les filles comme Caroline Drouin, qui était médaillée olympique à Tokyo l'année dernière à 7, a choisi cette année de se consacrer à 15. On verra si après elle reviendra à un double projet, mais pour l'instant, elle s'est dit cette année, je me consacre purement et simplement à la Coupe du Monde. Après, une Chloé Jacquel, elle n'a pas encore fait le choix de la Coupe du Monde à 15. Dans sa tête, il y a...
Les deux restent
possibles. Je ne suis pas sûr que les staffs la laissent enchaîner les deux.
On sent que les passerelles sont... Enfin, est-ce que c'est conjoncturel parce qu'il y a les deux Coupes du Monde la même année? Je ne sais pas, mais on sent que les passerelles entre les deux disciplines sont un peu moins empruntées qu'elles ont pu l'être par le passé. Par le passé, on avait quand même plus de joueuses qui faisaient les allers-retours 7 et 15. Quoi.
Puis il y a des joueuses qui ont fait des choix. Marjorie Mariens, par exemple, avait arrêté le 7 pour se consacrer au 15. Donc, avec le choc des calendriers, ça conduit parfois à être contraint de faire des choix.
Non, et puis ce qu'on a quand même fini par constater, on l'a constaté depuis un moment déjà, mais chez les garçons, c'est que je fais un pas de côté, mais ce sont quand même deux disciplines, c'est le même sport, mais ce sont deux disciplines complètement différentes dans la préparation physique notamment. Et voilà, les transfuges du 15 vers le 7 chez les hommes, on en a vu les limites assez souvent, et donc il n'y a pas de raison que maintenant que ces deux disciplines progressent aussi énormément chez les filles, eh bien cette incompatibilité entre le 7 et le 15 se retrouve aussi chez les filles. Donc c'est difficile de se préparer pour les deux sports, quoi.
En matière d'exposition, justement, on l'évoquait aussi tout à l'heure, samedi, le match des Bleus sera diffusé à 15h15 sur France 2. L'exposition du 15 de France, il a beaucoup évolué, Clément ?
Oui, il a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a le tournant de la Coupe du Monde 2014 en France, qui est un moment, en tout cas, je parle d'un point de vue franco-français, mais qui est un moment un peu charnière dans l'impact du rugby féminin, parce que si c'est pas un moment très glorieux pour nous à l'équipe, je vais le raconter, mais nous, la Coupe du Monde 2014 en France, donc qui avait lieu de mémoire en plein été, je crois que c'était vraiment au mois d'août, un moment très creux de l'actualité sportive et un moment très creux des rédactions sportives, un moment où les gens prennent leurs vacances. Et nous, cette Coupe du Monde là, je m'en souviens, c'était un stagiaire qui l'a suivi au début. C'est pour vous donner une idée du peu d'intérêt, disons-le, qu'on avait décidé, enfin, ou pas décidé, de consacrer à cet événement. Et puis, chemin faisant, d'abord par les bons résultats de l'équipe de France, et puis effectivement, les audiences assez fortes qu'avait fait le 15 de France cet été-là, il y avait peu d'actualité sportive en face aussi, il faut le dire. Et on s'était dit, non mais là, on fait n'importe quoi. Donc on avait remissionné un journaliste titulaire sur la fin du parcours des Bleus. Tout ça pour dire que cette compétition-là a vraiment, je pense, fait entrer le 15 de France féminin chez les fans de rugby, quoi. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une belle équipe performante. Il faut dire qu'aussi les résultats avant avaient été moins bons, quoi. Donc voilà. Et puis depuis, alors j'ai pas les audiences en tête là. Tu disais que ça fait 1,5 million.
Le dernier match vendredi. Ouais.
Voilà, je pense que
mais il y avait Capitaine Marlowe.
Voilà, c'est pour ça.
Et Masked Singer,
ouais, surtout. Mais on peut s'attendre effectivement samedi prochain en plein après-midi sur France 2 à une belle audience. Elle s'était sur France 3 vendredi soir dernier et non pas sur France 4. C'est des petites choses, mais c'est des petits indices qui montrent que elle progresse aussi de ce point de vue-là, en tout cas en termes d'exposition. Et puis je finis avec notre petite tambouille interne, mais nous, au sein du journal, on leur accorde davantage de place que par le passé. C'est peut-être pas encore suffisant, mais on avait fait une double page au moment du lancement du tournoi. C'est systématiquement une page en présentation et en compte-rendu sur tous les matchs de l'équipe de France, ce qui n'a pas toujours été le cas non plus. Il y a Yann donc, qui est là et qui ne fait pas que ça, mais qui les suit assidûment. Donc,
Et avec talent.
Et voilà quoi. J'étais très bavard, non mais voilà. Après, la limite, c'est toujours la même, c'est le championnat, quoi. Enfin, c'est de pas avoir en face de l'équipe de France pour qu'il y ait une continuité dans la couverture, dans l'exposition et tout ça.
Expliquer aussi.
Ouais. C'est d'avoir un championnat fort, quoi. Eurosport le diffusait il y a quelques années
de ça. Quelques matchs, mais même pas tous les matchs. Ouais. Et là, actuellement, il y a que la finale en fait qui est retransmise chaque saison, quoi.
Il y avait eu, puis on a besoin d'histoire, de rivalité. Il y avait un début de rivalité entre Lille et Montpellier à un moment. Il y avait le Nord contre le Sud. Lille a un peu baissé de cran. Il y a d'autres équipes qui ont émergé comme Blagnac et tout. Bref, c'est là, de ce point de vue-là, il n'y a pas encore le truc qui fait que ça devienne un feuilleton régulier qui fasse qu'on s'y intéresse toute l'année, quoi. Mais après, l'équipe de France, voilà, avec les perfs, les victoires contre la Nouvelle-Zélande et tout ça, c'est des choses qui font monter la sauce, quoi.
Et cette année, le tournoi est décalé par rapport au tournoi masculin.
Oui. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle.
Ce qui s'est fait presque par hasard, ce qui s'est fait l'année dernière à cause du Covid. Les organisateurs ont vu que ça faisait des meilleures audiences, que la visibilité était plus importante, et ils ont décidé cette année de reproduire ce décalage et que le tournoi féminin commence quand s'arrête le tournoi masculin.
Ils vont le garder, ça, a priori.
A priori, oui.
Mais c'est une bonne idée, hein. Ouais. Ils ont attiré aussi un sponsor naming, là, TikTok. Bon, on sent qu'il y a quand même aussi, de par ces décisions-là, une volonté des organisateurs de leur donner
plus de visibilité.
Ouais.
Après, le vrai problème, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, la compétition est encore à deux vitesses. Donc, quand il y aura plus de nations que la France et l'Angleterre qui seront concurrentielles, là, il y aura un vrai intérêt qui se développera, je pense.
En revanche, il n'y aura pas de journal le 1er mai. Traditionnellement, dans la presse, le seul jour férié, c'est le 30 avril.
Voilà. Et donc, malheureusement, si les Françaises remportent le Grand Chelem, il n'y aura pas de journal dimanche sur leur exploit. Mais on retrouvera des articles datés lundi 2 mai. Donc, voilà. Bon. On reviendra, nous l'espérons, sur leur exploit face à l'Angleterre.
Puisqu'on évoquait la Coupe du Monde, on peut y revenir un petit peu. Les Anglaises, elles vont les retrouver en match de poule direct. Ah oui, là, attendez, la Coupe du Monde, on va quand même la refaire. C'est 8 octobre, 12 novembre, c'est ça. Parce qu'elle a été repoussée d'un an à cause du Covid. Les Françaises devraient déjà être championnes du monde.
Voilà.
alors qu'il faudra attendre l'automne. Mais c'est ça, c'est pareil. Peut-être ce match contre les Anglaises, au-delà du Grand Chelem qui ferait du bien, petit truc psychologique.
Psychologiquement, ça peut clairement avoir un impact. Si on arrive enfin à les battre, là, à 6 mois de la Coupe du Monde, elles arriveront contre elles avec un autre état d'esprit à la Coupe du Monde. Et puis, même plus globalement, si les Françaises arrivent à battre les Anglaises ce samedi, elles peuvent se dire on est capable de taper les meilleurs mondiales. Donc, on peut vraiment viser le titre.
Parce qu'il y a l'impression qu'il y a quand même encore une barrière psychologique pour cette équipe, pour passer un cap, pour gagner un trophée, même s'ils ont fait le Grand Chelem en 2018. Parce que au-delà des 9 défaites contre l'Angleterre, en Coupe du Monde, il n'y a jamais eu de finale, par exemple. 6 troisième place, c'est conséquent. Mais jamais l'équipe de France n'a réussi à aller en finale. Alors, une victoire contre l'Angleterre ce samedi peut débloquer les choses au-delà de la seule rivalité franco-anglaise.
Ne t'en déplaise, Christelle, je vois encore un autre parallèle avec l'équipe de France masculine. Non, mais le fait de jouer les Anglaises en poule, c'est peut-être pas si mal. Si ça leur permet, alors comme c'est une formule qui est différente, si ça leur permet de les éviter jusqu'à la finale, en théorie, ça va dépendre des...
Des qualifiables troisième, ouais. La troisième place qu'ils peuvent qualifier, donc beaucoup de qualifiés.
Ouais. Non mais est-ce que ça les met forcément, si elles font 1 et 2, est-ce que ça les met forcément d'un côté du tableau? C'est ça ma question, mais bon, si ça peut leur permettre de les éviter jusqu'à la finale, c'est pas mal, et de passer enfin cet écueil des demi, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on verra comment ça se passe samedi contre l'Angleterre, mais quel que soit l'adversaire autre que l'Angleterre, et c'est pour ça que les victoires contre les Black Ferns à l'automne dernier étaient importantes, même si je pense qu'on aura une équipe de Nouvelle-Zélande mais totalement différente. On sait que depuis il y a eu des révélations sur des problèmes donc il y a eu des changements dans le staff, sur des problèmes de harcèlement presque moral sur certaines joueuses, notamment des joueuses originaires du Pacifique. Donc, bref, je pense qu'on aura une autre équipe de Nouvelle-Zélande. Mais en tout cas, l'équipe de France s'est prouvé qu'elle était capable de les battre. Et donc, pour faire sauter ce verrou de la demi-finale là, qu'évoquait Adrien, voilà, si quel que soit l'adversaire, en fait, elles sont capables de le faire, quoi. Donc, c'est quand même assez prometteur pour cette Coupe du Monde.
Peuvent être championnes du monde.
Même si elles perdent samedi, hein. Elles peuvent être championnes du monde dans 6 mois quand même. Elles postuleront de toute façon.
On peut avoir une... Non, mais ça peut être une année de dingue pour le rugby féminin, quoi. Les Françaises A7 peuvent être championnes du monde en septembre au Cap, et les Françaises A15 l'être aussi 2 mois plus tard en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc, c'est pas à exclure.
Mais on va rester sur cette note optimiste. Messieurs, merci beaucoup. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Yann Sternis, Adrien Corré. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation, à l'édition. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, les applis de podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles quand il y en a.
Et on débriefe le France-Angleterre féminin la semaine prochaine.
Et comme le dit Clément, nous débriefons la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine.